VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 7 mars 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Au Congo-Brazzaville, un consensus s'est dégagé à la concertation d'Owando sur la tenue des législatives.
Au Tchad, quelques 2000 personnes ont manifesté hier en faveur de la junte et aussi de la France.
En Ukraine, l'armée russe bombarde Kharkiv et resserre l'étau autour de Kiev, la capitale.
La flambée des prix du pétrole se poursuit dans ce contexte avec le baril de Brent de la mer du Nord frôlant ce matin les 140 dollars, proche du record absolu.
Ne manquez pas notre passeport avec Élisée Oumpatine.
Pour l'instant, le journal.
Au Congo-Brazzaville, fin des concertations entre différents partis politiques. Les 250 délégués présents à Owanda se sont accordés sur les opérations à mener avant les législatives de juillet. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Réunis à Owanda dans le nord du pays, les représentants de partis politiques de diverses obédiences se sont mis d'accord sur 12 points portant tous ou presque sur l'amélioration de la gouvernance électorale. Les participants ont recommandé qu'une révision des listes électorales soit effectuée dans les plus brefs délais avant les législatives couplées au local, dont la date reste à déterminer. Ils ont également recommandé la création d'une ligne budgétaire propre à la commission électorale qui dépend essentiellement du budget de l'État. Son indépendance est souvent remise en cause par l'opposition qui la juge trop partisane. Un consensus s'est dégagé sur l'organisation des élections sur toute l'étendue du pool dans le sud. Cette concertation a été boycottée par le collectif et la fédération de l'opposition congolaise qui ont dénoncé une diversion.
Au Tchad, quelques 2000 personnes ont participé hier à une manifestation en faveur de la junte militaire au pouvoir et de la France. Le point avec Gaby Dorsil.
Les manifestants ont défilé dans le calme à N'Djamena, la capitale, encadré par un léger dispositif policier. Cette manifestation a été lancée à l'appel notamment de la CASAC, la Coalition des associations de la société civile, une association proche de la junte. « Je soutiens le CMT parce qu'il veut promouvoir la paix sur le territoire », a déclaré Ange Premier Nelson David, un manifestant de 28 ans. Mahmoud Ali Seyd, ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la CASAC, s'est adressé aux manifestants, se félicitant des actions du CMT dans la préservation de la paix et la lutte contre le terrorisme au Sahel. « Nous sommes contre ceux qui brûlent les drapeaux de nos partenaires », a-t-il ajouté. « Merci à nos amis français qui nous ont toujours soutenus ». Le 26 février, lors d'une manifestation organisée à l'appel de l'opposition contre la junte, des jeunes avaient piétiné le drapeau français, tandis que d'autres arboraient un drapeau russe placé à côté d'un drapeau tchadien.
La famille d'un Français arrêté il y a 10 mois en possession d'armes de guerre en Centrafrique, où il est accusé de complot, le qualifie d'otage judiciaire. Elle a écrit hier dans une lettre ouverte au président Emmanuel Macron qu'il a été abandonné par les autorités françaises.
Juan Rémy Kinyolo, interpellé le 10 mai dans la capitale centrafricaine Bangui, est notamment accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et complot et d'espionnage, et est maintenu en détention provisoire dans l'attente de son procès. Paris avait dénoncé cette arrestation et sa médiatisation comme une instrumentalisation manifeste visant la présence et l'action de la France, accusant implicitement la Russie qui, depuis 2018, défie son influence dans ce pays.
En Libye, la Compagnie nationale de pétrole a annoncé hier la suspension de la production pétrolière de 2 gisements majeurs causant d'importantes pertes pour ce pays très dépendant de la vente d'hydrocarbures et qui connaît une grave crise politique. La production a été stoppée après qu'un groupe armé a fermé les vannes acheminant le brut sur les sites d'Al-Sharara et Al-Fil. Les pertes sont estimées quotidiennement à 330 000 barils et à plus de 32 millions d'euros.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée russe poursuit ce lundi son offensive tous azimuts en Ukraine, bombardant la deuxième ville du pays, Kharkiv, et tentant d'encercler la capitale Kiev. Une troisième séance de négociations entre Russes et Ukrainiens était prévue ce lundi, mais les espoirs de succès sont minces, le président russe Vladimir Poutine ayant posé comme condition préalable à tout dialogue l'acceptation par Kiev de toutes les exigences de Moscou, notamment la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays.
La population ukrainienne est prise au piège dans le port assiégé de Mariupol, où une deuxième tentative d'évacuation humanitaire a échoué, tandis que l'armée russe resserre son étau également autour de la région de Kiev. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
Pour la deuxième journée consécutive, la population de Mariupol a dû renoncer à quitter la ville portuaire sur la mer d'Azov. Le comité international de la Croix-Rouge a confirmé que l'évacuation de quelques 200 000 personnes avait été interrompue en raison de bombardements russes, selon la vice-première ministre ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine a mis l'échec des évacuations sur le compte des nationalistes ukrainiens. La chute de Mariupol serait un tournant dans l'invasion russe lancée le 24 février. Elle permettrait la jonction entre les troupes russes en provenance de la Crimée annexée et celle du Donbass. Sur le front de la mer Noire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de se préparer à bombarder Odessa, port de près d'un million d'habitants. Dans le même temps, les soldats russes se rapprochent de Kiev et d'intenses combats ont eu lieu dans la périphérie de la capitale. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, est toujours la cible d'intenses bombardements. Face à l'aggravation de la situation, l'exode s'intensifie. Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en 10 jours, a indiqué l'ONU, qui s'attend à ce que le flot augmente encore au fil des jours à venir.
La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur la situation en Ukraine, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a fait état d'attaques sur des installations sanitaires, et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a jugé très crédibles des informations faisant état de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.
D'autre part, selon M. Anthony Blinken, les États-Unis et l'Union européenne discutent très activement de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine. C'est ce que M. Blinken a déclaré hier dimanche. Nathalie Nanit Talani.
L'administration Biden est sous une pression politique croissante pour étendre les sanctions contre la Russie au domaine de l'énergie. Jusqu'ici, ce secteur a été largement épargné par les mesures prises par les Occidentaux afin de ne pas déstabiliser les marchés. Anthony Blinken a confirmé sur CNN que le gouvernement américain évoquait avec ses partenaires et ses alliés l'idée d'interdire de façon coordonnée l'importation de pétrole russe tout en s'assurant qu'un stock suffisant de pétrole subsiste sur les marchés mondiaux. Interrogée sur le même sujet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est montrée plus prudente, évoquant l'objectif de rendre impossible pour Vladimir Poutine de financer ses guerres. Elle a estimé que l'Union européenne devait se débarrasser de sa dépendance aux énergies fossiles russes. Des sénateurs américains, républicains et démocrates ont présenté jeudi un projet de loi visant à interdire ces importations. Joe Biden avait indiqué la veille que rien n'était exclu sur le sujet.
L'aggravation du conflit a entraîné ce matin une poussée de fièvre sur les marchés internationaux avec des hausses vertigineuses du pétrole et de l'or et une lourde chute des bourses en Asie.
Par ailleurs, les États-Unis travaillent activement en accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de chasse de ce pays à l'Ukraine, a déclaré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a mis en garde les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou. Cela pourrait être considéré comme une implication de ces pays dans un conflit armé, a-t-il dit, mettant nommément en cause la Roumanie, membre de l'OTAN.
Au moins 4640 personnes manifestent contre l'invasion de l'Ukraine. Manifestants contre l'invasion de l'Ukraine ont été arrêtés hier dans une soixantaine de villes de Russie, portant à plus de 13 000 le nombre des protestataires interpellés depuis le 24 février, a annoncé l'ONG OVD Info. Spécialisé dans le suivi des manifestations. Des milliers de personnes ont également manifesté dans de nombreuses villes en France, Belgique ou Espagne.
Quelques 300 migrants haïtiens sont arrivés hier en Floride, dans le sud des États-Unis, à bord d'une embarcation en bois s'échouant tout près d'un club privé de luxe, ont annoncé les autorités locales. Selon de premières informations, les personnes impliquées dans cette affaire de trafic présumé sont haïtiennes, ont indiqué les gardes-côtes sur Twitter. Beaucoup de ces migrants avaient besoin de soins médicaux. C'est la troisième fois en une semaine que les autorités américaines interceptent des migrants haïtiens cherchant à atteindre les États-Unis. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Le coup d'envoi de la deuxième édition de la Basketball Africa League a été donné à Dakar, au Sénégal.
Oui, 12 clubs de 12 pays différents répartis en deux zones, la Conférence Sahara et Nil. Et le Sénégal accueille donc celle de Sahara pour un premier tournoi de qualification. 6 équipes pour 4 places en phase finale à Kigali au Rwanda en mai prochain. Les Tunisiens de l'US Monastir, finalistes lors de la première édition, bien démarrés par une victoire 77-71 face aux Mozambicains de Ferroviário Beira. Un succès obtenu dans la douleur, reconnaît l'international ivoirien Souleymane Diabaté au micro d'Amédine Si.
C'est une bonne victoire parce que c'était une victoire qui était difficile, très difficile même. On a réussi à gagner dans les 3 dernières minutes et je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe parce que c'est une nouvelle équipe. Moi, je suis un nouveau joueur de l'équipe, je suis arrivé il y a 10 jours. Voilà, donc on ne se connaît pas encore. Mais le fait de pouvoir gagner un match aussi difficile comme aujourd'hui, malgré qu'on ne se connaît pas, c'est très bien pour la suite.
En revanche, un début raté pour le club hôte.
Oui, le Duc Dakar Université Club battu par les Guinéens de Slack, score 85-70. Que de regrets pour les Sénégalais qui ont mal entamé le troisième quart-temps. Le capitaine Adel Abdourahmane Diop.
Nous avons mal entamé le troisième quart-temps et nous avons perdu de plusieurs points. Et c'est pour ça qu'au finish, on ne pouvait pas recoller le score. Un peu de regret parce qu'on voulait gagner ce match d'ouverture. Et vous savez bien, dans une compétition, gagner le premier match, c'est très important. Comme on a débuté la compétition, on espère bien gagner nos 4 derniers matchs.
Le prochain match, ce sera demain mardi face à Ferroviário. Et puis, pour la dernière affiche, les Rwandais d'Energy Group ont créé la sensation en battant la SAL du Maroc sur le score de 91-87.
On enchaîne avec du handball. Les championnats juniors féminins d'Afrique et cadets ont eu lieu à Conakry, en Guinée.
Et c'est l'Angola qui s'impose chez les moins de 20 ans après avoir pris le dessus sur l'Égypte en finale par un but d'écart, score 18-17. Les Égyptiennes se sont reprises au niveau des cadets en s'offrant le trophée après avoir réalisé le plein. 5 victoires en 5 matchs. Le dernier qui leur offre le sacre 35-31 face aux Guinéennes. Une note de satisfaction tout de même pour le pays hôte qui finit vice-championne tant chez les juniors que chez les cadettes.
Football à présent, match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, Inde 2022.
Oui, et le Nigeria quasiment a assuré sa qualification en allant battre la RDC 3-0. Le Ghana aussi conforte ses chances en s'imposant 1-0 au Sénégal. L'Éthiopie et le Maroc aussi se mettent également sur le bon chemin en ramenant le nul de leur déplacement 2-2 en Ouganda pour les Éthiopiennes et 1-1 au Bénin pour les Marocaines. À noter que l'Afrique du Sud est déjà qualifiée pour le prochain tour après la disqualification du Kenya.
Football toujours et ont joué 2 matchs en retard de la première journée des interclubs de la CAF.
Tout à fait. Et en Ligue des Champions, le tenant du titre Al Ahly signe enfin sa première victoire en 3 matchs et difficilement 3-2 face au Soudanais d'Al Merrikh. Le club Kerot prend ainsi la deuxième place à son adversaire du jour dans un groupe dominé par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Et puis, en Coupe de la CAF, les Libyens d'Al Ittihad, après leur victoire 2-1 sur le terrain de Royal Leopard, s'installent en tête du groupe B avec 7 points, 1 de plus que Orlando Pirates.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le camp militaire de Mondoro, dans le centre du pays, a été vendredi dernier la cible d'une attaque terroriste d'une rare violence qui a fait plus de 20 morts, plusieurs blessés et disparus, selon le service de communication des forces armées maliennes. Retour sur cette attaque et les réactions des Maliens avec notre correspondant sur place, Mohamed Danioko.
Vendredi dernier, très tôt dans la matinée, l'information sur l'attaque du camp de Mondoro au centre du pays, à 150 km de Douanza, s'est répandue sur la toile comme une traînée de poudre. L'absence de bilan officiel sur cette attaque a laissé place aux chiffres recueillis selon leurs auteurs auprès des sources locales qui faisaient état d'une quarantaine de morts, une vingtaine de blessés et d'une vingtaine d'engins emportés. C'est un peu plus tard dans la soirée, sur les antennes de la télévision nationale, que le bilan provisoire dressé par l'armée fera état de 27 militaires tués, 33 blessés dont 21 graves et 7 portés disparus. Côté terroriste, l'armée affirme avoir neutralisé 47 personnes lors de l'attaque et 23 autres lors du ratissage. Pour Mamadou Traoré, président du parti Union, les autorités doivent très vite ouvrir une enquête et situer les responsabilités.
Nous exhortons les autorités de la transition à doubler des vigilances, à mener des enquêtes pour que les auteurs de ces actes-là soient traqués et présentés devant les juridictions compétentes.
Après avoir condamné cette attaque et demandé lui aussi l'ouverture rapide d'une enquête, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Aguibou Boiré, estime qu'en plus du renforcement des capacités de l'armée, les forces partenaires peuvent être d'une grande utilité pour prévenir de telles attaques.
Nous proposons que les capacités opérationnelles, le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité soient assurés par l'État et surtout solliciter l'accompagnement des forces partenaires.
Au sein de l'opinion nationale, on demande à l'armée de tirer les leçons de cette attaque tout en faisant le parallèle avec le départ imminent des forces partenaires.
De cette attaque, je pense que les forces armées maliennes doivent tirer des leçons donc pour changer de stratégie, voir là où ça ne va pas, là où ça va renforcer cela.
Pour nous, cette attaque pourrait également s'expliquer par le départ de la force, que ce soit de la force Barkhane ou encore de la force Takuba.
3 jours de deuil national ont été décrétés pour rendre hommage aux soldats tombés. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, le Premier ministre nommé jeudi dernier a formé ce week-end un gouvernement composé de 22 civils et de 3 militaires. On y compte également 6 femmes. Ce gouvernement doit s'atteler à relever les défis auxquels le pays est confronté, notamment la lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré fait le point.
Ils seront 25 pour diriger l'action gouvernementale comme l'avaient proposé les Assises nationales la semaine dernière. Des surprises. L'ancien ministre de la Défense de Rokkabouré, le général Aimé Barthélémy Senghor, a été reconduit. Yero Boly, emblématique ministre de Blaise Compaoré, est aussi dans ce gouvernement comme ministre de la Réconciliation nationale. Le célèbre syndicaliste Bassolma Bazier, lui, va s'occuper du ministère du Travail. Le département de l'Éducation nationale sera dirigé par l'analyste politique Lionel Bilgo, pour ne citer que ceux-là. Les attentes des Burkinabés sont connus. Marcel Tankouano, président du M21, un mouvement de la société civile.
Ces gens-là doivent travailler pour sauver le Burkina Faso. L'une des premières missions, c'est la reconquête du territoire national. Faire en sorte que les déplacés internes au nombre de 1,5 million de personnes retrouvent leur village d'origine. La mission véritable, c'est de sauver le Burkina Faso qui est en train de couler. Ceux qui ont eu la chance d'être appelés au gouvernement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de travailler, c'est de mouiller le maillot comme on a l'habitude de veut dire pour sauver notre pays.
Marc Bonogo, président de l'Alliance des Nouvelles Consciences, membre de la Coordination nationale pour une transition réussie, également membre du réseau des jeunes leaders ouest-africains.
C'est un gouvernement hétéroclite, un gouvernement composé donc d'hommes et de femmes de tous âges. Il y a l'entrée de la jeunesse, à travers Lionel Bilgo. Également, des anciens ténors comme l'ex-ministre de Blaise Compaoré de 1995 à 2002, Yiro Bouli.
Les observateurs et analystes pensent que ce gouvernement prend en compte toutes les sensibilités de la société. Pazien, juriste et analyste politique.
On voit certaines personnes qui ont intégré le gouvernement, des personnes qu'on ne s'attendait pas forcément, notamment Bassolement Bazier, qui a été pendant longtemps le patron de la plus grande centrale syndicale du Burkina Faso. Et aujourd'hui, donc, ce monsieur est un leader d'opinion. Je pense que ça va contribuer beaucoup à donner du crédit au gouvernement de cette transition. Au-delà de ça, on voit d'anciens ministres, tel Yiro Bouli qui revient pour la réconciliation nationale. C'est un gouvernement qui prend en compte, on va dire, toutes les tendances. L'ancienne majorité, l'ancienne opposition, une partie du régime de Blaise Compaoré, des syndicats. C'est un gouvernement donc qui est engagé pour la réconciliation nationale parce que c'est de mettre ensemble ces personnes-là autour de la table. C'est aussi un gouvernement de technocrates. Le plus important, c'est pas le CV des uns et des autres, c'est ce qu'ils vont produire sur le terrain.
Tout est allé vite la semaine dernière. Assise nationale tenue pour valider la charte de la transition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba investi comme président de la transition. Nomination d'un nouveau premier ministre, des membres du gouvernement. Reste maintenant la mise en place de l'Assemblée législative de la transition qui doit compter 71 membres. Le Conseil des ministres de prise de contact du nouveau gouvernement se tient ce lundi matin. Un Conseil des ministres qui sera présidé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, selon la présidence du FASO. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, les acteurs politiques et de la société civile qui étaient en concertation à Oanda ont adopté de nombreuses mesures pour améliorer la gouvernance électorale, mais ces mesures ne seront pas appliquées aux élections législatives et locales de juillet prochain, le gouvernement jugeant le temps trop court pour satisfaire aux recommandations de la concertation. C'est ce que nous dit de Brazzaville notre correspondant Arsène Séverin.
Le découpage électoral, l'usage de la biométrie ou le recensement de la population avant la tenue des élections ont été retenus à Oando. Ces recommandations ont globalement suscité un consensus entre majorité et opposition, mais elles ne seront pas appliquées aux prochaines élections, faute de temps. Jean-Jacques Serge Yombi-Opango, le président du RDD, parti de l'opposition, exprime son regret.
Je dis, c'est de la triche, parce que tout ça, en 3 mois, ça peut se faire. Mais la volonté politique est que nous devons protéger ces élections qui arrivent là, parce que nous savons très bien que le pouvoir veut avoir pratiquement 98% à l'Assemblée nationale. Il y a des petites avancées, mais alors c'est des toutes petites avancées. On est obligé de faire avec.
Pour sa part, l'opposant Éric Patrick Mampouya, représentant le MES, le parti de Claudine Mounari à ses assises, déplore le poids du PCT, le parti présidentiel, visant à tout prix à faire passer toutes ses propositions.
Nous avons un partenaire qu'on appelle le PCT qui est retors. Le PCT fabrique l'ordre du jour. Il prend le présidium, il prend les débats, tout est aux mains du PCT. Et nous, si on dit non, ça veut dire que ça n'avance pas.
Du côté de la société civile, on note de nouvelles avancées dans la gouvernance électorale. Germain Sefasse-Wangui est le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile.
Oando vient, au regard des conclusions que nous venons de suivre, d'ajouter sa pierre à l'édifice. Et c'est un plus dans notre marche inéluctable de la consolidation de la démocratie en République du Congo.
Un point de vue partagé par Jean-Valère Mbani, président de Le Congo en Marche, une formation politique du centre.
Il n'y a pas réellement de grande distance entre nous, les acteurs politiques. On est capable de se parler, on est capable de s'écouter, on est capable d'être en contradiction sur un point. On est capable également de comprendre qu'on ne peut pas partager tous un seul point de vue. Et donc, voyez-vous, il est utile et important de toujours dialoguer.
Tout naturellement, au PCT, dont le président a lancé l'idée de ses consultations politiques à l'orée de chaque élection, c'est la grande satisfaction. Parfait Loki, porte-parole du PCT.
Tout s'est passé dans la responsabilité, dans un climat de convivialité. Vous n'avez pas entendu des clashs. On peut considérer que le processus de démocratisation de notre pays est en train de marcher. Je peux même dire qu'il est en train de courir.
Clôturant la concertation politique de Wando, le Premier ministre Anatole Kolidé-Makosso a confirmé que les élections législatives et locales auront bel et bien lieu en juillet prochain. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, les enseignants des cycles primaires et secondaires du secteur public entament ce lundi une troisième semaine de grève initiée par le mouvement « On a trop supporté ». Les enseignants grévistes dénoncent ce qu'ils appellent les entraves à leur carrière et les mauvaises conditions de travail. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le mouvement « On a trop supporté » exige désormais que le gouvernement s'engage à résoudre ses revendications dans un délai de 3 mois avant qu'il ne suspende le mot d'ordre de grève. Un professeur des écoles normales d'instituteurs, membre du mouvement « On a trop supporté » apporte sous anonymat les précisions.
La grève ne prendra fin que lorsque des résolutions efficaces seront mises sur pied. Entre autres, le déblocage des fonds pour le paiement des arriérés de salaire, pour le paiement des rappels, pour le paiement des avancements. Parce que vraiment, nous avons trop supporté dans ce pays. Il est hors de question qu'on travaille pendant 10 ans, on n'a pas de salaire, on sacrifie nos familles, on sacrifie nos femmes, on sacrifie nos enfants. Et là, il y a d'autres problématiques qui sont également portées, entre autres le statut particulier de l'enseignant qui est sur la table du chef de l'État depuis une vingtaine d'années.
Ce durcissement de la grève prend le contre-pied du gouvernement qui appelle les enseignants à poursuivre normalement leurs activités pédagogiques. Au terme d'une réunion entre certains syndicats et les représentants du gouvernement, le 1er mars, les pouvoirs publics se sont engagés à résoudre les problèmes posés par les enseignants. Mais sur le terrain, comme au lycée bilingue de New Bell à Douala, ce professeur de philosophie campe sur les revendications du mouvement.
Nous avons engagé une série de revendications pacifiques. Donc tout se passe bien dans l'ordre. Nous sommes dans nos établissements scolaires, nous venons au boulot, mais nous ne travaillons pas. Donc c'est l'opération très morte.
Après 3 semaines sans enseignement, les élèves ne cachent plus leur inquiétude à l'approche des examens.
Pour les élèves comme nous, si on n'apprend pas dans une salle d'examen, si on ne fait pas cours, si on ne finit pas le programme, les conséquences sont qu'on va arriver à vous composer. Ça va nous pénaliser parce qu'on n'aura pas tout vu à l'école.
La majorité de nos professeurs ne sont pas venus. On a seulement eu 2 cours ce matin au lieu d'avoir 3. Nous composons mercredi prochain. Et quand les professeurs ne viennent pas comme ça, ça peut nous pénaliser pendant la composition.
Certains leaders politiques, comme le député du SDF Brice Nietzsche, ont apporté leur soutien aux enseignants grévistes au même titre que quelques parents d'élèves. Jean-Pierre Tchakouté, un parent d'élève.
Mais le président de la République, c'est les maîtres, les professeurs qui les ont éduqués pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Mais il faut qu'ils prennent en considération les revendications qu'ils ont émises. Depuis mes enfants sont à la maison, j'ai payé la scolarité, ils sont là, ils partent, on vient les chercher. Ils ne font absolument rien.
D'après un communiqué des services du Premier ministre, l'État va payer les arriérés dus aux enseignants mobilisés dans le cadre de la correction des examens officiels de ces 2 dernières années, de même que régulariser leurs avancements, leurs primes de non-logement et d'allocations familiales. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibour avec vous. Amazon va fermer ses librairies pour investir dans ses autres enseignes consacrées à la nourriture et aux vêtements et dans ses technologies de vente en boutique. Avec peu ou pas de librairies, comment se développe la lecture? Lisez-vous et quels sont vos rapports aux livres? Quels sont vos ouvrages préférés et pourquoi? Les livres sont-ils accessibles chez vous? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct au +1 202 205 26 33. À votre avis, c'est tous les jours à 18h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoudia et Michel Joseph. Également à la mise en onde, Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.